Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis de Radio Vassivière, amis du Limousin, amis des histoires, bienvenue sur Radio Festival. Radio Festival qui couvre le 26e Festival interculturel du Conte et ce depuis 26 ans. Eh bien oui, 26 ans de présence pour ce superbe festival. Festival interculturel du Conte, beaucoup d'histoires, beaucoup de conteuses, beaucoup de conteurs, des chanteurs aussi, on en reparlera. Nous sommes installés non pas sur l'île de Vassivière, vous le savez maintenant, mais à Offel. Offel, c'est tout près de l'île de Vassivière, vous savez, c'est là où on prend le bateau mousse, c'est là où il y a le golfe du Limousin, c'est là où il y a aussi l'office du tourisme. Et vous venez toutes et tous trouver des renseignements sur le plateau de Millevaches, sur Vassivière, sur les alentours, sur la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne. Bah oui, nous avons la chance, Radio Vassivière, d'être votre radio au cœur du Limousin. Et ce festival est non seulement au cœur du Limousin, mais au cœur de la francophonie, voire le cœur du monde pendant une semaine. Oui, encore mieux que Pougny-Hérisson chez Yannick Jeulin, puisque Yannick Jeulin, vous savez, qui est un grand conteur aussi, tiens, il fait son festival aussi en ce moment de contes. Et petit coucou à Yannick avec son nombril du monde. Bah, il n'y a pas que lui, il y a nous aussi à Vassivière, à Offel, pour ce festival où beaucoup de choses se déroulent et beaucoup de choses se sont passées. Tiens d'ailleurs, on va faire un petit voyage dans le temps, si vous le voulez bien. Hier soir, s'est déroulé un spectacle tout à fait intéressant et tout à fait surprenant, c'était celui d'Olivier Villeneuve. En partenariat avec le Centre d'art contemporain de Vassivière, une sortie pour tout le monde, de nuit, dans les bois de Quenouille. Quenouille, c'est pas loin, mais enfin, faut y aller quand même. Hein. Magnifique petit village limousin. Magnifique village, tout en pierre taille, comme ça, un peu perdu dans la montagne limousine. Et nous voilà partis, une centaine de voitures, grimpant les pentes de Quenouille, allant se garer dans un champ. Enfin, tout était très bien organisé. Bah, je faisais partie du lot. Alors, je vous invite à suivre le périple. C'était hier soir, aux alentours de 21h. Suivez-moi, on y va. Imaginez-vous, la nuit tombe, on est dans les bois, il fait un petit peu frais. Là, vous y êtes. Allons-y.
Quelle aventure pour se garer. Ça a été bon pour vous ?
La galère de monter jusqu'à Quenouille.
Ah, mais nous, on a fait une aventure. On a pris le chemin qu'il fallait pas prendre.
Ouais, carrément.
Ouais, et donc il a dû remonter en marche arrière. C'est un héros, hein. C'est un héros. Ouais, c'est il s'appelle Philippe. Philippe, comment tu t'appelles? Philippe Kizirian est un héros, qu'on se le dise. Il a sauvé trois conteuses, non, deux conteuses c'est plus une étudiante. Il nous a sauvés dans la forêt. Et Philippe Kizirian, c'est ça. Notez-le bien.
Bon, eh ben, le héros du soir. Non, mais on va être à la bourre en plus avec tout
oui,
ça.
Oui, oui.
C'est ça. Bon. Bon, merci de nous avoir garés. Sans vous, j'y serais pas arrivé.
C'est bon. Je viendrai.
Combien de voitures à peu près dans le parking là?
On dirait une petite centaine.
Ah oui, quand même.
Ah bah oui.
Bon, bah, merci de nous avoir guidés jusque là. Bon, faut qu'on se dépêche un petit peu parce que là, carrément, on va être à la bourre maintenant. En plus, non mais on est super où ? Alors là, on est à Quenouille. On vient d'arriver à Quenouille pour le spectacle d'Olivier Villeneuve qui nous attend. Et il y a plein de monde. Moi, je ne pensais pas que c'était des chemins aussi escarpés. Il y en a qui sont paumés dans la nature et tout. Enfin bref, allez, on y va, on continue. Bon, alors j'arrive après 100 mètres à pied, allez, au checkpoint. Ça va les filles ?
Bonsoir.
Ça va ? C'est là ça qu'on va. Prend les entrées ?
C'est
là
c'est
qu'on
bien prend tout ça. Ça ? Oui, c'est la billetterie.
Oh, c'est génial. Vous y voyez quelque chose quand même ?
Oui. Là, ça allait bien jusqu'à quelques...
Il y a...
quelques temps, mais là, la nuit vient de tomber, donc on sort les lampes torches.
Et vous êtes assez couverte là, parce qu'il va faire froid ce soir.
Oui, ça va.
J'ai prévu les petites laines.
Bon, c'est bien. Alors, il faut monter les escaliers là-bas,
ouais,
je suppose ?
Exactement.
D'accord, merci beaucoup. Ah ouais, c'est bien d'être guidé. En plus, il y a les lampes, il les faut, ouais, parce que maintenant, les nuits sont courtes. Merci, les filles. Bon, je crapahute. Allons-y. Ah oui, il y a des marches et ça s'allume tout seul.
Extraordinaire. D'accord. Ah, c'est super joli. Là, je rentre sous les arbres. Il y a une sorte de cirque naturel, absolument superbe, avec un immense cratère en granit. Et les gens sont assis tout autour, là. Il fait presque nuit. C'est vachement joli. On nous place et puis ça fait comme un grand théâtre naturel. On se croirait dans la Grèce antique. Ça fait un petit peu ça. J'imaginais pas ça comme ça. C'est génial. Des petits murets de granit. Voilà, qu'on enjambe. Et puis là, devant moi, bah oui, mais il y a bien au moins 200 personnes qui sont installées, qui attendent d'être placées. Il y a un grand écran avec des projections dans la nuit. C'est tout à fait beau et génial. Bon, et Olivier, qui est là en face, qui se prépare pour le show.
Le gars de la radio qui est en train de faire son petit commentaire. Et ouais, on est aujourd'hui, on n'est pas demain, on n'est pas hier.
Et là, c'est vraiment, mais c'est même hier, parce que ça va passer donc tout à l'heure. Bon, et ben je vais m'installer, moi, avec tout ça, c'est pas le tout, mais je vais me trouver une petite place.
Bonsoir et bienvenue. On n'est pas n'importe où, et pour commencer, nous avons la joie d'être accueillis par quand même des gens qui viennent du centre d'art et du paysage international de Vassivière, et c'est grâce à eux qu'on se retrouve ici, et bah du coup je vais aller les voir car nous allons avoir un petit mot de leur part. Alors, qui a voyagé toute la journée, donc il est un peu épuisé, c'est pour ça qu'il est là. Voilà, hop, alors, et il faut qu'on vous voit.
Ouais. Eh ben, bonjour à tous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce soir et de découvrir ce lieu magnifique de Quenouille. Ce soir, nous allons vivre une nouvelle expérience dans le cadre d'un partenariat avec le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière, dans le cadre de l'art et du conte. C'est un mélange pluridisciplinaire qui nous tient beaucoup à cœur. Et je laisse la parole à Alexandra qui nous vient du Canada, qui est la nouvelle directrice du Centre d'art de Vassivière et qui a pris son poste il y a quelques jours à Vassivière. Wow.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Alexandra, comme Maria l'a dit, je suis directrice depuis 2 mois. J'ai fêté mon anniversaire hier de 2 mois au Centre d'art.
Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!
Alors, le Centre d'art sur l'île de Vassivière, c'est partenaire quand même de longue date avec le festival Parole du conteur. Et voilà, j'ai le grand plaisir d'être avec vous ce soir pour vous accueillir et pour le spectacle d'Olivier Villeneuve qui s'appelle Le Retour des Rois d'Iran. Merci.
Vous êtes dans une lenteur pressée. Ben, je vais remettre du volume. Alors, je suis très heureux de vous embarquer, du coup, dans cet espace pour un voyage. Alors, comme il est d'usage, quand on part en voyage, si vous voulez bien, on va se mettre en mode avion. Mettre ta petite laine pour pas éternuer pendant le... Je vais en profiter, je suis connecté, je vais mettre sur BBC Persan Classique pour voir s'il parle du Festival de Vassivière, du Centre culturel d'art. Il faut tendre l'oreille. Hein.
Simplement pour vous mettre dans l'ambiance, hier soir donc, à Quenouille, vous avez pu assister, comme si vous y étiez, au démarrage du spectacle. Alors je n'ai pas pris de son pendant le spectacle, parce que je veux vous laisser absolument la surprise lorsque vous allez vous-même, un jour, découvrir Olivier Villeneuve dans Le Retour des Rois d'Iran. Le principe était simple. En fait, il a fait un voyage, Olivier, lorsqu'il avait 40 ans, voire 39 ans, trois quarts. Il avait décidé de partir faire un voyage comme ça, loin, et puis destination, pourquoi pas, Téhéran. Il avait un petit peu peur au moment d'y aller, vraiment, il est parti tout seul. Et puis, il a eu l'idée de faire un spectacle après, au retour de ce voyage. Comme il le dit à la fin du spectacle, on dit faire un voyage, mais c'est souvent le voyage qui vous fait. C'est une très belle idée qu'il a eue de juxtaposer finalement sa propre épopée d'un homme qui va avoir 40 ans avec une épopée perse. Et il nous raconte cette histoire comme ça avec un parallèle tout à fait drôle et tout à fait profond également. C'était un très beau spectacle dans un cadre extraordinaire. On a passé une très bonne soirée. On s'est tous enrhumés, mais c'est comme ça. Mais le Jean valait la chandelle. Bref, si vous venez le soir tardivement écouter des contes, n'oubliez pas votre petite laine, ça peut vous rendre service. Petite pause musicale tout de suite avant de continuer la suite du programme sur Radio Festival pour écouter de nouveaux conteurs, de nouvelles conteuses. Tiens, restez bien avec nous parce que tout à l'heure, il y aura un invité qui viendra nous parler du conte et du sport également. Ce sera Robin Recourt et puis également Catherine Gaillard qui sera là pour nous parler du spectacle de ce soir. Restez avec nous juste après Barbara avec justement les voyages.
Oh, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, oh, les voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images. Voyage, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages. Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous chante comment la vie vaut bien le coup malgré tout. Ah, jeunes gens, sachez profiter de vos 20 ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera. Ah, les voyages qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvre au bonheur, mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits. Les voyages, tourne une page, oh les voyages,
Barbara la Grande, Barbara, avec les voyages, évocation des voyages, bien sûr, avec l'importance qu'ont les voyages. Un voyage, on fait un voyage, mais c'est souvent le voyage qui nous fait. C'est ce que nous dit Villeneuve à la fin de son spectacle. Il a bien tout à fait raison. Vous aimez les voyages aussi, les conteuses et les conteurs qui sont là?
Ah oui, Catherine, bah, même si on est
Gaillard,
un petit peu frustré.
Robin. Ouais, frustré pourquoi ?
Bah, depuis 2 ans, c'est quand même plus difficile hein, de partir.
Est-ce qu'il y a besoin de partir loin pour voyager ?
Ah non, bah, je suis d'accord. Moi, je voyage très bien toute seule chez moi dans un fauteuil. mais disons que ça ne remplace pas quand même la rencontre, oui. L'inattendu, etc. Quoi.
C'est vrai.
Alors, voyager, c'est partir quand même.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être effectivement ce qu'on a cru. Et peut-être qu'on a appris à voyager, peut-être un peu moins loin, mais à voyager différemment là depuis 1 an et demi, 2 ans. Ça a peut-être changé notre rapport au voyage, cette saloperie de Covid.
Ouais, c'est possible. En tout cas, probablement le tourisme de masse, qui n'est pas mal, parce que ça devient compliqué de voyager, je trouve, de plus en plus. Hein, par rapport à moi, à mon jeune âge, disons, quand j'avais 20 ans, je vous parle de 1900 et quelques. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on pouvait vraiment partir sac au dos, jeune voyageur.
Tu parles des années 80, simplement.
Ouais, exactement. Voilà, bah, moi, je parle de ça aussi.
Donc c'est tout près. C'était juste hier.
Oui, voilà, en gros.
Raconter, c'est faire voyager de toute manière. Une histoire, c'est nous faire voyager dans l'espace, nous faire voyager dans le temps. Tiens, par exemple, Robin Recourt qui va prendre la parole pendant une semaine, tous les jours, là, pendant la semaine, 5 épisodes, autour, Robin, du
autour d'un voyage.
Fois, le voyage, ouais. Il était une fois en Olympie, le sport, donc.
Le sport en Olympie, oui.
C'est une super idée.
Ben c'est. Oui, c'est le deuxième spectacle que je tourne régulièrement. Enfin, que je tourne régulièrement. Dans sa version en un seul épisode et qui est lié à une forme d'expertise que j'ai par ailleurs dans les sciences du sport. Le précédent spectacle, c'était un spectacle sur les langues et puis autour de moi, on m'a dit mais puisque tu as beaucoup travaillé sur le sport, pourquoi tu ne ferais pas un spectacle sur le sport ? Tu aurais une légitimité là-dessus. Et puis ben voilà, je me suis dit pourquoi pas et ça m'a fait repenser à un voyage que j'ai fait justement lorsque quand j'avais 13 ans avec mes deux sœurs. Emeline et Fanette, avec mes parents, jusqu'en Grèce. C'était en 89. Et on est parti avec la Citroën CX familiale jusqu'au sanctuaire d'Olympie. Mmh. Et c'est ce voyage-là que je raconte dans le spectacle. On se retrouve dans le véhicule et sur les différents sites qui jalonnent le trajet. Et sur chacun des sites, on retrouve des personnages à la fois historiques, qui sont des athlètes, qui ont vécu dans l'Antiquité. Et puis, on raconte des mythes qu'il faut intervenir également des sportifs, des athlètes.
Alors, tu veux nous plonger dans la mythologie grecque, alors c'est ça, moi j'aime bien, que j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien aussi ce principe-là de donner des lettres de noblesse à un art ou quelque chose qui n'en a pas trop, qu'on regarde parfois d'un peu de haut. Le sport est regardé parfois un peu de haut comme ça par les intellectuels. Et je trouve ça bien d'en faire quelque chose, finalement, voilà, artistique, mélangé à la littérature, au mythe. Je trouve ça super intéressant.
Et c'est ouais,
il y a tellement de choses importantes dans le sport, ouais. Aussi, d'artistes, de sportifs, par exemple, de femmes qui ont fait avancer la société grâce au sport.
Donc, et c'est cette mise à distance du sport par les intellectuels qui a rendu un peu difficile la fabrication du spectacle. Pourtant, parce qu'il y a peu de la littérature est assez maigre sur le sport de l'Antiquité. Pourtant, oui. Le sport était vraiment central à cette époque-là, le sport et le corps. Et c'est par ça que je débute chacun des épisodes. C'est le rappel du fait que l'an 1 du calendrier grec renvoie à la première organisation des Jeux sportifs sur le site d'Olympie, à l'apparition du sport. Au fait que l'apparition du sport pour les Grecs est aussi importante que la naissance du Christ pour les chrétiens ou l'éveil de Bouddha dans de nombreux pays en Asie. Le sport est vraiment central dans la culture et dans la religion grecque. Et pourtant, à cause de ce dualisme qu'on fait aujourd'hui entre le corps et l'esprit, les spécialistes de la religion, les spécialistes de la mythologie grecque, s'intéresse assez peu au sport. Ça fait qu'il y a peu de choses qui sont produites sur cette question. Et les spécialistes du sport, en même temps, sont assez peu nombreux à lire le grec ancien. Ce qui fait que pour fabriquer ce spectacle, il a fallu aller chercher vraiment dans des lieux imprévisibles, compliqués, enfin, aller fouiller dans des petits aspects de la littérature scientifique, retourner sur les sources, reprendre le dictionnaire de grec ancien pour retraduire des textes de l'Antiquité.
Et quels sont alors les premiers sports qui sont apparus comme ça dans l'Antiquité ? J'imagine, il n'y avait pas de chrono, il n'y avait pas de machin, évidemment. Donc, c'était basé sur quoi ? Sur un combat, en face à face ?
C'était l'agone, c'était la confrontation, le combat. Dans, à la journée pro, il y a une artiste qui a commencé à raconter l'histoire de Gilgamesh. Mm-hmm. Habituellement, devant mes étudiants à l'université, je représente Gilgamesh comme l'une des premières célébrités sportives, parce qu'il adorait combattre. Dès qu'il croisait un homme, il le défiait. Voilà.
Merci Catherine.
Et c'est ce défi, ce qu'on appelle l'agone, ce qui a donné les Olympiakoi Agones, les Jeux Olympiques. Mais bon, le terme jeu, c'est un terme qui est un peu, qui n'est pas forcément adapté. C'est de la confrontation. C'est des sports qui sont individuels, qui sont pas collectifs, et dont le but est de prendre l'ascendant sur son adversaire.
Mmh. Et puis, il y a un champ lexical commun entre le sportif et le héros de conte. Entre les épreuves, entre le champion, on va trouver évidemment plein de points communs à travers ces deux-là. Et la façon de s'affronter, de se défier, on est confronté à celui qui est mauvais ou qui est considéré comme mauvais dans le conte, et donc le bon va devoir faire ses preuves, etc. Ou séduire la belle, dans la façon très classique du conte. Il y a une façon comme ça aussi de se montrer dans son plus bel effet. Donc, un héros ou une héroïne de conte se doit d'être sportive.
En tout cas, dans l'Antiquité, bon, il fallait rechercher un corps sain, une âme belle dans un corps sain, recherche de l'équilibre, de la beauté du corps et de l'âme. Et pour revenir sur les disciplines sportives, si elles étaient toutes liées à la compétition, elles étaient quand même assez diversifiées. Souvent, on dit que l'épreuve reine des Jeux, c'était la course. D'ailleurs, c'était le vainqueur de cette discipline-là qui donnait son nom à l'Olympiade, le cycle de 4 ans qui permettait de scander le calendrier grec. Et puis, on avait aussi du saut en longueur, du lancer de javelot, lancer de disque, et puis les combats. Mmh. Les disciplines n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui, aux Jeux Olympiques. Il y a des centaines de disciplines aujourd'hui. Là, il y en avait une petite dizaine, une petite douzaine entre les sports de combat, les courses et lancer, les courses de chevaux aussi. Voilà ce qui faisait d'ailleurs qu'il devait y avoir une très grande émulation, une très grande des performances assez exceptionnelles, parce que beaucoup de concurrence entre des athlètes qui étaient nombreux finalement, parce que le sport faisait partie intégrante de l'éducation. Mmh. Un tiers de l'éducation du jeune grec, c'était les matières de l'esprit, un tiers la musique et un tiers le sport. Mmh. Voilà. Par contre, ce que tu dis par rapport à la victoire, à l'échec, le musicien qui arrive, vous voulez vous joindre à nous?
Parce que tu es, Robin, cet après-midi à partir de 18h avec des musiciens. Et là, on est installé à Ophel, dehors, comme ça, devant la caravane. Mais venez, les musicos, là. Il n'y a pas de raison, non, mais ils débarquent là. Ils arrivent de la plage avec des glaces à la vanille dans la main. Ils sont en maillot de bain et serviettes sur l'épaule. Grève des bus. Regardez, il y a des micros. Il y en a un au moins, vous allez pouvoir vous le partager. Ah oui, reste là, Catherine, reste là. Ils vont faire une petite intervention parce que le conte, Robin, donc,
5 minutes.
Autour de ce conte en épisode, c'est autour de la mythologie d'une fois, donc le sport en Olympie, ça se passe en musique. Et avec toi, Robin Recourt, Malina Roméjas et Félix Lipéry. Chant, violon, guitare. Bon, comment ça va se passer alors à tous les trois? Comment vous avez monté cette ambiance musicale autour de la parole de Robin? Tiens, je donne la parole, pourquoi pas, à Malina, qui est à côté du micro. Bonjour Malina.
Bonjour.
Qui ne s'attendait pas du tout à parler dans le micro,
non,
en arrivant ici.
Non, pas du tout. Mais... on va arriver pour l'apéro conté. On est juste venu faire des grimaces à Robin. Comment on a monté? Ben en fait, c'est un spectacle qu'il peut jouer seul aussi, Robin. Mais
il préfère avoir ses copains. Il est plus sportco, quoi.
Ouais, voilà, il aime bien les sportco. Quoique, non, tu faisais du saut à la perche, c'est pas ça. Non, mais je pense que c'est l'équipe de Vassivière aussi qui avait envie qu'il y ait de la musique sur ce spectacle. Et nous, on avait déjà travaillé ensemble sur un précédent spectacle qui était sur les langues. Et donc, on avait déjà travaillé sur le fait de mettre en musique les histoires et d'agrémenter un peu.
D'accord.
Voilà.
Pour Félix, tu es guitariste donc, et quel est ton rôle dans le spectacle?
Alors, je crois qu'on dit le clown blanc, c'est ça ? Non, non, bah moi, ça fait depuis 2015 que j'accompagne Robin. C'est avec lui que j'ai découvert l'univers du conte. Et du coup, la guitare est, a une place assez présente parce qu'elle elle dresse des tapis, elle peut donner un bourdon, elle met des musiques d'ambiance ou elle peut être illustrative sur les histoires. Et ça permet... aux spectateurs et spectatrices de partir plus dans l'imaginaire. Et du coup, ça fait depuis 6 ans qu'on travaille ensemble. Et la guitare a toujours été là. Je fais d'autres instruments, je chante, je fais des percussions. Mais finalement, c'est surtout la guitare qui est retenue parce que voilà, on a ce bourdon. Moi, quand j'ai commencé à l'accompagner, j'ai essayé de m'inspirer du travail de Micheline de Nock.
Bravo, bel exemple.
Parce que voilà, je trouve que c'est un conteur qui maîtrise vraiment l'art de la musique dans le conte.
Ouais, bien sûr. C'était une référence. Dionne, il a commencé par la musique. Il a fait du rock dans les années 70. Et puis, il est venu au conte plus tardivement. Mais c'est le prince des conteurs, dit-on, dans ce métier-là. Donc, ouais, belle référence. On va se régaler donc avec vous tous les trois. C'est à partir de 18h, un conte en épisode. Ça commence aujourd'hui à 18h sous le grand chapiteau et ainsi de suite jusqu'à vendredi. Donc... Là, aujourd'hui, c'est important parce qu'on va être captivé d'entrée et on va avoir envie de suivre. C'est un peu le Netflix, vous êtes le Netflix du conte. Voilà.
Oui, c'est un spectacle en 5 épisodes avec un certain nombre avec des successions d'un épisode à l'autre, avec des choses qui s'enchaînent. Mais on peut aussi assister à chacun des épisodes indépendamment les uns des autres.
Très bien.
Il y a le fil conducteur qui est ce voyage, ce grand voyage en Grèce qui dure 2 mois. Et puis sur les différents sites qu'on va parcourir, vont apparaître les différents personnages qui vont émailler le voyage d'histoire.
Très bien. Premier voyage, donc, première ville, ce sera quoi ? Premier lieu ?
Alors, le premier... Aujourd'hui, on va s'arrêter, on part de ma Normandie natale et on va arriver à Marseille.
D'accord.
À Marseille, ville phocéenne, fondée par les Grecs.
C'est déjà une étape.
C'est déjà une étape. À Marseille, on a un sculpteur qui s'appelle Pierre Puget, qui a réalisé une très belle sculpture d'un athlète grec, le plus grand sportif de l'histoire, Milon de Crotone, dont l'original est au Louvre. Une copie est juste à côté du Vieux Port. Au cours des Siennes d'Orves, et on va raconter l'histoire incroyable de ce champion qui a été entraîné par Pythagore lui-même, dont on ne sait pas forcément que Pythagore était lui-même avait réussi l'exploit lorsqu'il était jeune de gagner un titre olympique à l'épreuve du pugilat. Savez-vous ce qu'est le pugilat ?
C'est la bagarre.
Oui, on peut penser, c'est ça, hein.
Et voilà, Milon va devenir un spécialiste de lutte, va se marier avec la fille de Pythagore et va se passer dans sa vie un certain nombre de choses absolument extraordinaires. Donc on raconte ça, le public va apprendre des choses sur l'Antiquité, mais on raconte ça avec quand même beaucoup d'humour. Et voilà, c'est l'occasion de se replonger dans l'histoire,
mais
tout en se divertissant.
On va se régaler, j'en suis sûr, à partir de 18h. Donc 18h et ce, jusqu'à vendredi, sous le grand chapiteau, Robin Recourt, avec Malina Roumégas. Roumégas ou Roumégas ?
Roumégas.
Roumégas, pardon Malina. Et Félix Lipéry, il était une fois le sport en Olympie. Ne loupez pas ça. Tiens, est-ce que vous connaissez Henri Tachan ?
Oui.
Ah, c'est bien. Ben, il est très oublié, Henri Tachan, mais il est toujours en vie. C'est un grand chanteur qui a fait des choses magnifiques, notamment Mémé dans les orties et puis plein d'autres belles chansons. Là, j'ai choisi pour vous les Jeux Olympiques. On va écouter Henri Tachan, les Jeux Olympiques, on va se faire plaisir quand même. Et puis on va retrouver après d'autres conteuses, d'autres conteurs, et notamment Catherine Gaillard. A tout de suite, après Henri.
Ce serait chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du bonheur. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation 62. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, si nom de Dieu il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, caca doigt des frontières. Leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette, les souvenez-vous, et n'oublie pas que la guerre est conne. Les recueillements sur les trous, où les soldats fusillés dorment. ce serait chouette. Et souvenez-vous, les manifestations de paix, ce serait chouette. Et souvenez-vous, sinon de Dieu, il y avait leur petit drapeau, leur petit fainéant, leur petit tambour qui donne la cadence, leur petit drapeau, leur petit fainéant qui claque au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune, plus qu'à fondre Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ce serait chouette d'aller sur la lune, en vacances pour mille étés. Ce serait chouette d'aller sur la lune, sinon de Dieu il y avait leur petit drapeau, leur petit fainéant, pour cette fois ricain de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fainéant, leurs petites étoiles, la grande ours en balance. Ce serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la hampe. Ça ferait des pyjamas très beaux, des soutiens-gorge pour les vampes. Ce serait chouette si tous les drapeaux finissaient un jour drap de lit. On y ferait l'amour bien au chaud avec les filles de leur pays, avec les filles de leur pays, avec les filles de leur pays.
Henri Tachant, sur Radio Vassivière pour Radio Festival avec Jeux Olympiques. Ne loupez pas donc Robin Recourt à 18h, je vous l'ai dit déjà, avec le sport en Olympie, en épisode, etc. On va se régaler à 18h sur le Grand Chapiteau. Ce soir, après 21h, sur le Grand Chapiteau, nous accueillons Catherine Gaillard. Et nous sommes ravis d'accueillir Catherine Gaillard. Catherine est une immense conteuse. Moi, j'aime beaucoup Catherine Gaillard pour plein de choses. Déjà par rapport au choix de ses histoires et puis par rapport à la force de ses mots et par rapport au sujet qu'elle a l'habitude de nous conter. Je me souviens d'un spectacle comme Amazon où je me posais des questions depuis 26 ans que j'accompagne ma façon comme ça, la radio, le festival, que j'ai vu beaucoup de contes. Je me disais quand même, j'en ai marre de ces princesses qui épousent des princes sans arrêt. Il y a tellement peu de princes qui épousent d'autres princes et tellement peu de princesses qui en épousent d'autres. Et je trouve que c'est un peu ringard là-dessus, le monde du conte. Et puis Catherine arrive avec Amazon et là bouscule un peu les codes. Et ça faisait du bien. Mais ça n'a pas tellement bougé quand même.
Quand même.
Tu trouves? Moi, je trouve pas tellement, Catherine.
Ah oui, c'est vrai. Non. Moi, je trouve qu'il y a quand même plus maintenant de personnes qui racontent des histoires un peu LGBT, comme on dit aujourd'hui.
Oui, tu trouves?
IQ.
Oui.
Et ouais, quand même ça.
Ça reste friendly de loin.
Non seulement la seule, mais ça faisait même bizarre, quoi.
Oui, ça a dû faire peur à quelques programmateurs.
Ça a fait peur à plein de programmateurs qui venaient me voir d'ailleurs et qui me disaient, mais moi j'ai adoré, je trouve ça super et tout, bravo, mais mon public il aimera pas.
C'est ça.
Et moi je leur disais, mais t'as raison, mais bien sûr ton public il aimera pas. Qu'est-ce que t'en sais? Même dans les coins les plus reculés des campagnes, il y a 10% d'homosexuels. Et si on compte en plus leurs parents, leurs frères et leurs sœurs, on n'arrive pas loin des 50% de personnes concernées. Donc,
bien sûr.
Il n'y a aucun endroit qui échappe à la règle, c'est comme ça. Donc allons-y. Et puis il y a eu des gens qui ont eu vraiment le courage de le faire et qui m'ont programmé dans des zones dites rurales et où j'ai eu des témoignages vraiment magnifiques, quoi.
C'était un très très beau spectacle. Tu le tournes toujours, Amazon?
Ah oui, je le tourne bien toujours sûr. beaucoup moins qu'avant, parce que justement ça s'est un peu diversifié quand même, il y a un peu plus de monde et tout, puis j'ai l'impression que ça fait plus partie de nos sociétés maintenant, hein. Il y a eu le mariage pour tous, il y a beaucoup de discussions maintenant, cette cause est tout de même est arrivée, disons, dans un tronc commun. C'était pas le cas en 2004 quand je l'ai créé, c'est ça.
Oui. Oui, je suis pas sûr que dans toute la francophonie ailleurs ce soit le cas. Oui. Je pense qu'il y a encore des choses beaucoup à défendre.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Bien sûr qu'on n'est pas arrivé au bout. Bien sûr qu'il faut encore en parler. Bien sûr qu'il y a encore des résistances qui sont incompréhensibles pour moi aujourd'hui, naturellement.
Et alors aujourd'hui, tu nous reviens avec un spectacle autour de Flora Tristan, dont il va falloir parler, mais c'est cette passionnariat, cette révoltée du début du 19e, morte très tôt à 41 ans.
Ouais.
Tout ça finalement à cause de violences sans doute subies, voire d'une balle reçue dans la colonne vertébrale, c'est ça. Bon, un parcours incroyable pour cette fille née fortunée, grande bourgeoise, ouvrière révoltée. Tu vas nous en dire un petit peu plus, c'est passionnant.
Non, elle est née même dans la noblesse péruvienne. Son père était un descendant de Montezuma, au Pérou, etc., qui a épousé une Française. Elle est née dans une famille très riche, dans un milieu de la noblesse, quoi. Et par un revers de circonstances, disons malheureuses, elle se trouve qu'elle se retrouve dans le quartier les plus pauvres de Paris, avec sa mère, à devoir survivre avec très peu, mais en échappant à la grande misère de ces années-là. Hein, donc, et puis, petit à petit, bien sûr, elle s'émancipe. Surtout, elle réalise à quel point le monde n'est pas du tout comme il devrait être. Ce qui est paradoxal avec elle, c'est qu'on a l'impression quand même qu'elle, c'est comme si elle venait d'aujourd'hui et qu'elle se retrouvait dans un 19e siècle de post-révolution industrielle, enfin au début de la révolution industrielle.
Où la place de la femme était...
La place de la femme était épouvantable, la place des ouvriers était terrible, les gens travaillent, elle va rencontrer des populations exploitées au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la région de Lyon, elle tombe sur une usine où les gens sont employés 20 heures par jour. 20 heures sur 24, pour des salaires qui ne suffit pas à les nourrir ni à les loger. Par exemple, il y a un couple d'ouvriers, ils se relayent, ils n'ont qu'une seule chemise pour deux. Enfin, c'est vraiment des choses, mais on n'imagine même pas. Et quand elle va voir, elle, les patrons, pour les prendre à partie, parce qu'elle est en colère, ses contemporains l'appelaient Madame la colère. Elle est caricaturée dans les journaux de l'époque. C'est une femme en colère. Et elle va, comme ça, apostropher les gens avec sa colère, ce qui les secoue quand même. Et quand elle dit à ce patron, mais enfin, vous êtes fou, vous les faites mourir, vous faites mourir votre main-d'œuvre. Puis lui dit, mais de toute façon, ils sont bien assez payés parce que les 4 heures qu'il leur reste de congé et le peu d'argent que je leur donne, ils vont les dépenser à la taverne pour se saouler à mort. Donc de toute façon, ils gagnent déjà trop, vous voyez bien. Puis elle dit, mais ils meurent, et comment vous faites avec la main-d'œuvre? Puis il dit, quand il n'y en a plus assez, parce qu'effectivement, ils meurent, je vais chercher ces crétins d'Helvète. Donc merci, je viens de Suisse. Je vais chercher, c'est à Lyon, c'est pas loin. Je vais chercher les crétins d'Helvète parce que eux, ils travaillent sans jamais se plaindre et ils économisent tout ce qu'ils gagnent.
Alors c'est un personnage tout à fait romanesque, Flora Tristan, grand-mère de Gauguin quand même.
Oui, mais dites pas tout.
Je dis pas tout, mais j'ai un peu travaillé quand même.
Je vois ça. Ouais. Il s'en est pas du tout vanté, lui. Il la connaissait pratiquement pas. Il était très misogyne, Gauguin, de toute façon. Mais elle n'a jamais connu son petit-fils. Mais leur parcours à tous les deux est intéressant, comme personne totalement en dehors de la boîte, quoi, j'ai envie de dire. Lui pareil, à sa manière, s'en prenant aussi aux bourgeois de l'époque. C'est des gens qui font tête baissée contre les murs.
C'est ça. Personnage qui a beaucoup romanesque, on disait, qui est passé par le voyage aussi, parce que le Pérou, l'Angleterre également.
Énormément.
Elle a beaucoup voyagé. Elle a écrit, elle a publié.
Oui.
C'est incroyable. Alors, ce voyage au Pérou me questionnait un petit peu parce que j'ai lu justement un bouquin l'année dernière. J'ai oublié l'auteur. C'est un Suisse, donc tu vas connaître, Catherine. 10 petites anarchistes. Ça ne te dit rien ?
Non, ça ne me dit rien. Non.
Alors, c'est l'histoire, en fait, de jeunes Suisses qui décident au 19e, ça se passe après la Commune, en fait, 1871, un groupe de filles qui travaillent justement dans le monde de l'horlogerie, etc. Et très influencées par les thèses anarchistes, de partir notamment en Amérique du Sud pour y vivre dans des communautés idéales, anarchistes idéales. Mm-hmm. Alors je me suis posé la question, est-ce que, étant en avance sur son temps, Flora Tristan, est-ce que le voyage, c'était ça aussi, aller chercher un truc idéal? C'était quoi?
Non, alors elle, quand elle va au Pérou et en Angleterre, c'est pas du tout pour chercher l'idéal, c'est pour aller... le Pérou, c'est pour aller réclamer sa part d'héritage. L'Angleterre, c'est pour rencontrer les socialistes.
D'accord.
Alors, elle fait deux voyages en Angleterre. Le premier pour échapper à son mari, puisque le divorce est interdit.
Alors, socialiste, est-ce que c'est pas un peu tôt pour parler de socialisme ?
Non, ils s'appellent vraiment les socialistes.
Parce qu'on est
au début de la révolution.
1830, là.
Oui, c'est ça. Mais elle, à ce moment-là, ils s'appellent vraiment c'est le début du socialisme qui assiste aux nouvelles usines. En fait, c'est le début de la révolution industrielle. Mm-hmm. Et eux, elle veut aller visiter ces nouvelles usines immenses, mécanisées, où les gens sont astreints à une place de travail, accomplissent les mêmes gestes, sans répit, etc., la journée, auprès des machines. Donc c'est ça son. Elle veut aller voir ce que ça donne. Que ce capitalisme naissant apporte finalement comme esclavagisme de plus. Elle a rencontré les esclaves au Pérou et elle subodore que le capitalisme est en train de réinventer l'esclavage, ce qui est tout à fait le cas.
Elle est née au mauvais siècle, cette femme. Elle serait née au XXe siècle, au XXIe, elle serait présidente de quelques nations ou chef de...
Oui, je ne suis pas sûre qu'on ne lui aurait pas mis aussi les mêmes obstacles, hein, parce que toutes les femmes qui pensent en dehors des cercles, même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas si évident. C'est quand elles sont mortes qu'on les trouve extraordinaires. Comme Gisèle Halimi, c'était quand même ahurissant de voir le nombre d'éloges funèbres de personnes qui, si on retrouvait leurs écrits du moment où elle était vivante, n'avaient pas du tout le même langage. Donc de toute façon, les femmes qui se érigent comme ça en défenseuses des intérêts publics ou de la cause égalitaire ou contre les injustices, etc., quelle que soit leur époque et quel que soit leur pays, sont de toute façon promises aux hégémonies, quoi. On les déteste. Aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux. Il faut voir comment toutes ces femmes qui s'élèvent sont traitées par... avec des attaques personnelles, des menaces de mort, sans aucun contrôle. Enfin, elles sont livrées vraiment au pire, quoi, à la haine et tout ça. Donc, je ne crois pas que les choses, fondamentalement, aient encore changé dans les profondeurs. La racine est toujours là.
Ça a bougé quand même. Ça a bougé un peu plus.
Ça a bougé. Ça gagne du terrain. Mais on est loin d'être sorti d'affaire, quand même.
Vrai.
Sur la haine contre les femmes qui se lèvent.
Ah bah on peut voir tout simplement les propos de Kaboul, qu'il y a eu. Bon, c'est sûr, voilà. Tu as raison.
Si on pense la planète commune et indivisible.
Sur les femmes qui ont accédé à des postes importants politiquement, je pense à Edith Cresson, Ségolène Royal ou
voilà,
autres, les claques qu'elles ont pu prendre de la part de leur propre parti, dit progressiste.
Exactement.
C'est quand même effrayant.
C'est vrai que Flora Tristan, elle a ça de particulier, qu'on a l'impression qu'elle, c'est comme si elle avait les idées d'une femme du 21e siècle, quoi, d'aujourd'hui, et qu'elle se retrouvait dans un 19e obscur.
Oui.
Et du coup, tout l'énerve, quoi. Enfin, elle ne comprend pas que le monde puisse en être encore là. Mais pas seulement la cause des femmes, hein, la cause de l'égalité en général. Elle va être quand même la fondatrice du syndicalisme en France. C'est elle qui elle écrit son dernier livre, c'est l'Union ouvrière, pour laquelle elle fait un tour de France, etc., pour inciter la cause ouvrière à s'unir. Parce qu'avant elle, ce sont des congrégations par métier qui sont à chaque fois gouvernées entre les mains d'un homme qui défend la cause ouvrière, mais de sa congrégation. Et ils luttent entre eux pour le pouvoir. Donc, les ouvriers, évidemment, sont complètement livrés aux patrons qui font ce qu'ils veulent, puisqu'il n'y a pas d'unité. Et elle perçoit très bien la cause de l'unité humaine, l'unité ouvrière, mais aussi l'unité humaine. Elle défend aussi l'égalité entre les hommes et les femmes comme étant le seul moyen d'obtenir l'unité humaine. Mmh. Et elle défend la cause des étrangères, c'est-à-dire de dire le palais de la femme qui a été construit beaucoup au XXe siècle, etc., c'est elle. C'est son grand projet d'ouvrir des lieux par et pour les femmes.
Elle avait lu Olympe de Gouges, mais pas que.
Alors, Olympe de Gouges, ce qui est étonnant, c'est que elle, dans ses correspondances, elle parle beaucoup d'une Olympe, mais on n'est pas sûr que ce soit Olympe de Gouges.
Ouais.
On ne sait pas si elle y fait référence. Elle a en tout cas, elle, inspiré, c'est certain, beaucoup de celles qui vont la suivre, y compris naturellement... la rouge de la commune, mon Dieu, son nom m'échappe. Alors que...
Oui, bien sûr, on a
merci
Louise
beaucoup,
Michel.
Thierry, merci. Ouais, Louise Michel, c'est ça. Et Rosa Luxembourg, etc. Et par extension, elle inspire même Karl Marx. Hein,
ouais.
Parce que dans ses lettres...
Georges Sand lui faisait la gueule, paraît-il, un peu.
Ça,
c'est curieux, parce que Georges
Sand... Vraiment la gueule, ouais. Parce qu'en fait...
Il y avait concurrence, là.
Et c'est bien dommage. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de le regretter.
Mais est-ce que Georges Sand était si progressiste que ça? Je ne suis pas si sûr.
Je pense qu'elle l'était, mais elle l'était avec des bonnes manières. C'est-à-dire qu'elle
elle était anticommunarde, hein, déjà.
Elle était, bon, déjà, voilà. Elle voulait pas trop la violence. Elle trouvait que ça faisait mauvais genre, quoi. Donc il y avait quelque chose.
C'est la bonne dame de
Nohant. Oui, voilà, c'est la bonne dame de Nohant. Mais elle a, non, pêche qu'elle a quand même fait avancer la cause. Et qu'elle a, Mais elle avait une sorte d'idée romantique, quoi, de la cause ouvrière. Elle défendait les poètes ouvriers. Et Flora Tristan, évidemment, vient au clash avec elle. C'est-à-dire qu'elle l'accuse de décrire les ouvriers comme sous un très très beau jour, etc., de les magnifier, comme ça, pour créer un sentiment romantique, alors qu'elle, Flora Tristan, elle les a vus, les ouvriers. Ils n'ont rien de romantique du tout. Ils sont abrutis par le travail.
Ouais.
Ils vivent dans de la boue. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut magnifier ça? Et elle l'accuse en disant, c'est pas ça qu'il faut faire.
Comment est-ce qu'on fait, Catherine Gaillard, pour monter un spectacle autour d'un tel personnage sans tomber dans la géographie? Parce qu'on voit que tu es passionnée par ce personnage, sans tomber dans la pédagogie non plus, parce que, évidemment, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour construire un vrai spectacle de conte? C'est quoi ta recette?
Ah bon, j'ai eu beaucoup de mal, hein, avec. Il m'a donné du fil à retordre. C'est-à-dire que. En fait, faut l'écouter. J'ai envie de dire, faut l'écouter elle, quoi, et la suivre. La suivre avec dans son parcours qui est. C'était ça la difficulté, c'est que une vie humaine n'est pas linéaire. C'est pas une dramaturgie construite avec toutes les étapes. C'est quelqu'un qui va se cogner dans un mur là, qui repart, qui rebondit dans un autre mur, qui part à l'aventure, qui fait. Donc, c'était ça d'arriver à donner un sens à tout ça. Et trouver ce fil directeur. Et quand on l'a trouvé, finalement, bah, tout s'éclaire. Et on voit qu'elle suit elle-même un fil tout à fait logique jusqu'à sa mort tragique, naturellement. À la fin de sa vie, quand même, il l'appelait la femme Messie. C'est pas rien. Donc, moi, j'étais gênée quand j'ai trouvé ça. Je me suis dit, oh là, la femme Messie, oh là là. Mais en fait, dans le contexte, si vous voulez, elle arrive à un moment donné où les ouvriers attendent une femme Messie. Parce qu'elle a été annoncée par les grands poètes ouvriers et les grands philosophes, sociologues, je ne sais pas comment on dirait aujourd'hui, de Saint-Simon et Fourier, par exemple, qui, eux, voulaient créer, vous savez, les familistères, toutes ces sociétés idéales anarchistes.
Tout à fait, c'est ça.
Y compris en Amérique du Sud, en Amérique, beaucoup, ils voulaient les construire. Donc, c'est ceux-là qui ont annoncé l'avènement du peuple ouvrier comme étant l'unité humaine, comme étant la paix sur la terre et tout ça. Et eux, ils ont dit, on attend la femme Messie parce qu'elle s'unira au père ouvrier, bon, c'était encore très très patriarcal, etc. Ouais, assez, disons, chrétienne, hein, quand même, même s'il s'en défendait. Elle s'unira et naîtront alors les enfants messie qui, eux, changeront l'humanité. Et ces thèses aujourd'hui nous semblent totalement, évidemment, farfelues, etc. Mais il faut voir que dans le contexte de l'époque, les gens y croyaient. Et c'était leur espoir qu'arrive la femme messie. On l'attendait.
Bien sûr, c'était une forme de révolution. On évolue gentiment. Voilà.
Et donc, les pères ouvriers attendaient aussi la femme messie. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une nana qui leur plaisait, elle constate ça, elle l'écrit, hein, elle n'en va pas tirer seule, il murmurait à son oreille, je pense que tu es la femme messie. Et elle, oui, bien sûr. Et puis voilà. Donc, c'était un très bon moyen de draguer, apparemment. Et elle, ils lui ont fait le coup parce qu'elle était absolument ravissante. Enfin, elle a vraiment. Les gens tombaient fou amoureux d'elle. Hein.
Il y a des portraits d'elle, nombreux. Effectivement, elle est très belle.
Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la photographie. Elle aurait adoré se faire photographier. Elle s'est fait peindre plusieurs fois.
C'était une coquette aussi, sans doute. Parce qu'on le voit sur les tableaux et sur les représentations.
Oui,
il y en a plusieurs. Il y en a où elle est effectivement montrée comme une passionnariat. Mais est-ce que ce n'était pas aussi. Ses critiques qui l'a montré comme une sorte de pas le couteau entre les dents, c'est pas l'époque encore.
Alors il y a eu des caricatures où effectivement elle était montrée avec un fouet comme ça, là, avec en train de taper les bourgeois qui fuient avec leur chapeau capitaliste, qui fuient, et elle est comme ça, voilà, il y avait cette image, oui, c'est Madame la Colère, quoi. Donc c'est vrai qu'elle faisait peur. Elle allait aussi attaquer l'Église, hein. Elle débarquait chez les évêques en disant les compromis entre l'Église et l'usine pour affaiblir les gens et les garder sous cloche et tout ça, elle a tout dénoncé, quoi.
Je pense à des conteurs, tu vois, comme Olivier Villeneuve, Marien Guillet et autres, qui font de leur vie un conte en le mettant en parallèle, pourquoi pas, avec d'autres épopées. Est-ce que pour Catherine Gaillard, il n'y a pas moyen d'en faire de Catherine Gaillard aussi un personnage de conte ? Est-ce que tu ne te caches pas un peu derrière des histoires pour parler de toi ? Mais est-ce que tu ne pourrais pas un jour parler vraiment de toi ?
Comme Flaubert, je suis Madame Bovary.
Un peu ? Non ? Parce que toi, il y aurait matière, vraiment. On sait bien que tous les thèmes que tu abordes, c'est toi. Et donc, que tu pourrais peut-être appréhender une forme autobiographique aussi, non ? Ça t'intéresse pas ?
Non, je crois que ça ne m'intéresserait vraiment pas du tout de parler de moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de parler de ce qui me traverse, bien sûr. C'est ça qui m'enflamme, c'est ça qui me fait vibrer et tout ça. Donc, quand je rencontre... c'est vrai que moi, quand je me suis dit c'est pas possible, en étant femme homosexuelle dans ce monde, j'allais dans des festivals de contes et je savais pas s'il fallait faire un coming out. Puis combien de fois on le fait, son coming out? Combien de fois il va falloir dire bonjour, je m'appelle Catherine, je suis homosexuelle? C'est plus possible. Au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Donc je me suis dit, je vais faire un spectacle parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus et de le rallier justement à la mythologie, quoi, et à ce peuple dont on ne connaît que ce qu'en disent ces génocideurs, en fait, les Grecs. Voilà, c'était ça le pari et tout. Puis après, c'est bien que c'était clair après pour tout le monde. Donc ça m'a aidé, si on veut, dans mon milieu professionnel et pas seulement. Mais parce que c'est ce thème, il fallait en parler. J'en pouvais plus que ça ne se parle pas, que ça ne se dise pas, que c'était trop difficile. Quant à Flora Tristan, c'est parce que moi, je viens d'une famille ouvrière. Hein, mes grand-mères, arrière-grand-mères, etc. On vient d'une famille de lignée ouvrière et paysanne. Hein. Donc je me suis dit, mais wow, les femmes dans le mouvement ouvrier, quoi, quand même, quoi, qu'est-ce qu'on en dit? Je me souviens de l'IP, moi j'avais 13 ans, 68, avec ces femmes qui disaient mais on est 80 femmes sur 100 ouvriers et ils sont encore en train de dire les gars, qui c'est qui vient, elle râlait les ouvrières,
bien
sûr. Qui c'est qui vient parler aujourd'hui à la presse, alors les gars, puis elle disait Monique, là, la fameuse Monique qui était l'égérie un peu de ce mouvement, elle levait la main et puis il la regardait même pas. Alors les gars, il n'y a personne qui vient. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Donc les femmes dans le mouvement ouvrier, jusque dans le XXe siècle, il y avait des choses à dire. Et j'ai cherché longtemps le fil rouge pour ça. Puis je suis tombée sur Flora et je me suis dit voilà.
On va se régaler ce soir avec Catherine Gaillard et donc ce spectacle autour de Flora Tristan. On va apprendre évidemment beaucoup de choses. On va clore ce petit moment avec toi, Catherine, avec une chanson, Juliette, rime féminine.
J'adore.
Bien évidemment, et nous aussi on adore. Alors tout de suite, Juliette, rime féminine. Et tout de suite, après, nous retrouvons Thierry Beneteau qui était ce matin avec des enfants à qui il a raconté des histoires de loups, entre autres. Alors pour l'instant, Juliette et après Thierry. Merci Catherine.
Merci.
Dans un corps vide, entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine en l'une ou l'autre sans racine. Et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbo dans la reine Christine. Sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît, Juliette Drouet, la signore, ou la grande Julie. Dehors et en chantant avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, la farouche Isadora Duncan, pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïse Labbé, ou Louandrea Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux métempsychoses, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire. La Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or. La Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes-Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille. Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai. Et les agitatrices de bouche, brandissant l'espoir et la gouge, Hollande de bouge, Rosa la rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dames
dominatrice, ladies, madame, donia ou miss, comme Cariatis ou le Dacis Angelet Davis. Le train du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès. Et l'empoisonneuse Boccia Lucrèce. Enfin j'ai pour être sincère du goût pour les belles arrangères, Yvette Guilbert, Claire Bredacher, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître votre frangine en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka Malika ou Marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en gourgandine. Tiens, en Juliette Nourédine.
La grande Juliette, Juliette Nourédine, avec rime féminine, extrait de son premier album il y a quelque temps maintenant. Des spectacles pour enfants, mais vous savez qu'il y en a plein sur ce 26e Festival Interculturel du Conte. Tiens, demain à 11h par exemple, Anne Boutin-Pied sera là avec Cœur battant pour les petites oreilles sur le grand chapiteau. Et puis, ce matin, Thierry Beneteau était là avec Patacloc. Vous savez ce que ça donne un spectacle de Thierry Beneteau? Vous savez ce que ça donne un spectacle pour les enfants sous le grand chap? Eh bien tiens, je vous invite, c'était tout à l'heure, vers 11h15 à peu près. Voilà l'ambiance.
Savez-vous ce que j'ai vu? J'ai vu une souris à la pharmacie en train de tricoter des chaussettes pour ses bébés. C'était pour aller au festival de Bassy. Souvent la fond pied ici. Savez-vous ce que j'ai vu? Savez-vous ce que j'ai vu? J'ai vu la lune rousse qui faisait ses courses au supermarché. Même pas mal. Savez-vous ce que j'ai vu?
Qu'as-tu vu?
Savez-vous ce que j'ai vu?
Qu'as-tu vu?
J'ai vu un petit coq dans l'œuf à la coque me demander déjeuner. J'étais ce matin là avec Nico et puis Fabien. J'ai tout vu de mes yeux vus, j'ai rien perdu. Les yeux fermés, j'ai tout rêvé. J'ai tout vu. De mes yeux vus, j'ai rien perdu, mes yeux fermés. J'ai tout rêvé. Et maintenant, je te raconte. Il était une fois un petit coq. Un petit jao qui jouait dans la grange au bonhomme Jacquet. Et lui, le petit coquet, il avait l'habitude de se mettre toujours au même endroit, perché tout là-haut sur la poutre. Et c'est là qu'il passait la nuit, en compagnie de ses poules préférées. Il y avait la blanche, il y avait la noire et puis la petite grise. Et au petit matin, le petit coquet, il prenait sa plus belle voix pour réveiller le village. Il prenait sa plus belle voix pour réveiller le monde. Coco 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 lico. Coco 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 lico.
C'était sous le grand chapiteau, tout à l'heure, entre 11h et midi, c'était Thierry Beneteau qui a réjoui les enfants, mais pas simplement, mais il y avait aussi des grands qui ont été ravis de ce spectacle. Je crois que c'était 50-50, autant d'enfants que d'adultes, avec Patacloc. Bonjour Thierry Beneteau.
Ouais, bonjour Jean-Michel.
Content que tu sois là et que tu puisses nous parler de ce spectacle. Alors, ressenti après spectacle, comment ça s'est passé ce matin sous le grand chapiteau?
Écoute, c'était vraiment que du bonheur, hein. En tout cas, de très bonnes conditions. Pour ce spectacle, voilà, des bonnes conditions techniques, de son, lumière, Puis on voit, enfin moi j'étais bien. Donc déjà quand il y a ça, on est bien avant de démarrer, c'est hyper important. Et puis content d'être là. Hein, moi, je suis venu plein de fois sur Vassivière et j'ai pas forcément raconté. Je suis venu prêter mes oreilles et puis là d'être là, d'être invité à,
en tout cas, voilà,
à raconter.
On a adoré. Hein. Donc c'est vraiment formidable que tu aies pu faire ce spectacle. Alors Patacloc, avec tes personnages, tu les promènes depuis longtemps ces personnages à travers ce spectacle.
Ouais, vraiment, c'est un spectacle qui date un peu là. Je crois que c'est, je sais pas, 2013-14. Mm-hmm. Et c'est un spectacle qui a vraiment beaucoup tourné. C'est un familial à partir de 4-5 ans et qui fonctionne bien. Et il y a plusieurs lectures. Je pense que les grands arrivent à se régaler aussi. Et puis même, en tout cas, moi, je défends l'idée. Je suis pas tout seul. Hein, et c'est bien de défendre l'idée des bonnes histoires pour les petits. Sont aussi des bonnes histoires pour les plus grands.
Ah oui, t'as tout à fait raison. Tu as combien de spectacles à ton actif?
Oh, je sais pas trop là au catalogue, je sais pas, 5, voilà, j'ai 2 duos, puis j'ai un spectacle pour le très jeune public, hein, mm-hmm. les vraiment les tout petits. Puis voilà, j'ai celui-là en familial, Patacloc, et un autre voilà, que je fais un petit peu, un peu plus rarement, qui s'appelle La tête dans le poulailler. C'est
toujours pour les enfants, ou alors est-ce que tu as aussi des spectacles destinés aux adultes?
Ouais, j'ai des tout publics à partir de 8 ans, on va dire, c'est pour les grands enfants et les adultes. Après, j'ai pas de spectacle voilà, à partir de 12 ou 15 ans que pour les adultes, j'ai pas ça.
D'accord. Bah, ouais. C'est réjouissant tout à fait d'aller compter pour les petits dans des écoles peut-être parfois.
Moi je travaille pas beaucoup avec les écoles, hein, mais je travaille beaucoup avec les bibliothèques, médiathèques, les festivals, et puis déjà ça se remplit bien comme ça. Et puis occasionnellement les écoles, mais bon, il y a quelques années, bon, j'ai démarré avec les écoles comme beaucoup, je viens de la petite enfance, parce que j'étais duc de jeunes enfants avant de faire le compteur à plein temps, et voilà, on vient tous de la
presque
petite enfance,
jardinier d'enfants, comme on disait dans le
temps. C'est très beau, ça me va bien, je sais pas ce que
c'était joli cette formule aussi. On dit professeur des écoles en école primaire, mais avant on disait jardinier d'enfants, c'était merveilleux cette appellation.
C'est ça, mais c'est très beau, je suis d'accord avec toi.
Pour toi, le sentiment comme ça, quand tu es en face de gamins avec les grands yeux et tout qui sont dans tes histoires, c'est super motivant, j'imagine.
Ouais,
c'est inspirant,
ouais. Oui, ça t'anime, ça t'allume, quoi. Même si tu rentres quelquefois, tu rentres et puis t'es pas tout à fait dedans, t'arrives pas encore à trouver toute ta place, et très vite, voilà, tu commences quelques notes de guitare et puis voilà, le début de l'histoire, et puis les yeux s'allument, hein. De toute façon, voilà, si t'es au bon endroit, il se passe quelque chose, la rencontre se fait, quoi. Elle est immédiate, presque, ça va très vite, quoi.
Bien. Alors, vraiment, un spectacle pour enfants, vous en avez beaucoup sur le 26e Festival Interculturel du Conte, tous les jours quasiment. Il y a aussi des scènes ouvertes, les siestes comptées, et puis un peu partout, parce qu'on dit le Festival Interculturel du Conte, c'est beaucoup pour les grands, mais non, c'est aussi pour les petits. Bien sûr, on ne les oublie pas. Et puis, il y a toujours une part d'enfants chez les grands. En plus, donc voilà, l'histoire, elle parle à tout le monde. Petit récapitulatif, alors très rapide hein, pour cette journée. N'oubliez pas donc qu'il y aura justement des siestes comptées à partir de 14h, qu'il y aura également à 17h, Armel et Pépé Audigame, là devant leur verdine, qui vont sortir les accessoires pour vous enrober de paroles d'Igane et vous enchanter, comme d'habitude. À 18h, Robin Recourt avec... conte en épisode, les fameux contes de l'Olympie autour du sport, conte en musique également. Et puis ce soir à 21h, Catherine Gaillard avec Flora Tristan. Nous sommes ensemble, et encore pour un petit bout de temps, parce que sachez que l'équipe de Radio Vassivière est là pendant 2 heures, et ce jusqu'à vendredi, je crois bien. C'est-à-dire que là, pendant tout le temps du festival, Radio Vassivière vient également ici à Offel pour faire des directs, des émissions en direct. Comment vas-tu, Kevin ?
Eh bien, ma foi, ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va faire une petite midinale en direct. Il y a Fabien qui va se mettre derrière la console et voilà, on va rester ensemble jusqu'à 14h.
Eh ben voilà. Eh ben moi, j'embarque le mien, Didier Lasséchère, et je vais aller boire l'apéro pendant comme ça. Et toi, tu vas bosser, Kevin.
Voilà, c'est
avec
comme ça.
Avec le tien de réalisateur. Voilà, mais moi, je vous dis au revoir et puis très belle journée à tous et à demain.